Voilà, qu'on attend que les quelques personnes s'assoient. La tradition chrétienne a toujours considéré trois pratiques comme essentielles à la vie spirituelle, et pas seulement pendant le temps du carême. La prière, le jeûne, l'aumône ou le partage. Ces trois pratiques convertissent notre cœur en transformant notre relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Et comme le rappelait le Père Pascal lors de notre la semaine dernière, c'est peut-être un peu fort. Oui. Ben, j'ai éteint celui-là.
Vas-y.
Comme le rappelait le Père Pascal, le carême est un temps de prière plus intense, une période pendant laquelle nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Et la prière nous entraîne à rencontrer Dieu dans les réalités de notre monde. Aussi, la prière est indissociable de l'action. Et nous faisons tous le constat que notre monde dans son ensemble connaît à la fois l'abondance de richesses et en même temps exclusion et pauvreté. Et c'est dans le cri des pauvres que nous entendons le plus clairement la voix de Dieu. La charité n'est pas facultative pour les chrétiens, et nos papes successifs ne cessent de nous appeler à refuser la culture de l'indifférence. Et comme l'a écrit le pape Léon, le danger, c'est l'habitude de ne plus voir les pauvres. Alors, que signifie l'aumône pour un chrétien aujourd'hui? Comment pouvons-nous expérimenter concrètement la présence de Dieu dans ceux qui souffrent ou sont marginalisés? Pour comprendre la signification de l'aumône et du partage pour un chrétien d'aujourd'hui, nous vous proposons de regarder comment la Bible parle de l'aumône et du partage. Nous l'illustrerons par la parabole du bon samaritain et le commentaire qu'en fait le pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, et comment la tradition émanant des pères de l'Église, des saints et des papes nous enseigne sur cette question. Enfin, nous donnerons des pistes concrètes pour le partage. Le sens de l'aumône et du partage dans la Bible. Pour toute la Bible, l'aumône, geste de bonté de l'homme pour son frère, est d'abord une imitation des gestes de Dieu qui, le premier, a fait preuve de bonté envers l'homme. Effectivement, dans l'Ancien Testament, la miséricorde de Dieu est première. Il entend le cri des pauvres. Dans l'Exode, souvenons-nous de la rencontre de Dieu avec Moïse, commence sans par lui dire « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. » Le Seigneur sauve, son amour est prévenant. Dans le psaume 24, « Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. » La loi du Seigneur est une loi de justice. Dans le Lévitique, lorsque vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ, tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson, tu ne grappilleras pas dans ta vigne. Je suis le Seigneur, votre Dieu. De là découle la miséricorde de l'homme pour ses semblables. Elle est d'abord la réponse loyale de l'homme à Dieu. Dans le livre du Deutéronome, et nous serons justes si nous veillons à mettre en pratique tous ces commandements en présence du Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a prescrit. La charité et le partage envers les pauvres, avec les pauvres, sont considérés comme une exigence de justice. Dieu demande à son peuple de prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers. Et dans le Deutéronome, nous lisons encore « Tu donneras largement à ton frère pauvre et malheureux. Ce n'est pas à contre-cœur que tu lui donneras. Pour ce geste, le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans toutes tes entreprises. » Cela signifie que la solidarité fait partie de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et l'aumône rapproche enfin de Dieu. Le livre des Proverbes nous enseigne que Dieu lui-même reçoit notre générosité. Celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur, dit le Proverbe 17 dans le chapitre 19. Et dans le livre de Tobie, l'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie. Une histoire célèbre de partage est racontée dans le livre des Rois. Nous connaissons la rencontre du prophète Élie avec la veuve de Sarepta, où sévissait une grande famine. Donc, en résumé, dans l'Ancien Testament, Dieu appelle son peuple à la justice envers les pauvres. Elle est vécue donc comme une réponse aux bienfaits de Dieu et une obéissance à ses commandements. Avec le Nouveau Testament, le partage prend un sens plus profond. Jésus accomplit d'abord pleinement cet héritage et il s'identifie lui-même comme le pauvre. Nous ne le connaissons vraiment que dans la rencontre avec les petits, les pauvres, les souffrants. Par l'Esprit Saint qui nous est donné, Jésus répand son propre amour dans nos cœurs pour vivre la charité à sa suite. Alors, dans le Nouveau Testament, sur l'aumône, il nous faut d'abord contempler le Christ dans ses faits et gestes. Rappelons-nous quelques-unes de ses paroles. Dans Matthieu, « À qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » L'aumône doit être faite avec humilité, dans Matthieu encore, « Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. » La valeur de l'aumône ne dépend pas de la quantité donnée. Elle dépend de l'amour avec lequel on donne. Dans le récit de Saint-Marc de l'obole de la veuve, Jésus observe les personnes qui déposent leur offrande dans le trésor du temple. Les riches donnent beaucoup, mais une pauvre veuve s'approche et dépose seulement deux petites pièces. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le don doit aussi être généreux. Rappelez-vous le proverbe qui est repris dans la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Et la charité transforme aussi le cœur de celui qui donne. Le don fait avec amour se transforme en joie, dit saint Paul, ce qui se traduit dans les actes des apôtres par « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et pour mesurer la nécessité de la conversion, on écoutera tout à l'heure le jugement dernier que nous commentera Jean-Louis. Alors, en conclusion, Jésus nous invite à nous mettre à sa suite en donnant de nous-mêmes, nous qui avons tout reçu du Père. Il s'agit de notre conversion dans nos rapports avec Dieu, avec nous-mêmes et avec notre prochain. Et pour l'illustrer, nous allons prendre la parabole du bon samaritain.
Alors, ce n'est pas vraiment un enseignement, c'est plutôt une méditation sur ce texte. Hein. Le carême, donc, c'est le temps de l'aumône. Hein. Le mot qui se traduit mieux, aumône, c'est le mot partage. Alors, il faut reconnaître que la nature humaine est assez égoïste souvent, et très souvent nous sommes centrés sur nous-mêmes. Alors cette parabole, au contraire, elle nous invite, à la différence, comme dans le carême, hein, à nous tourner vers le Dieu d'amour, le Dieu qui met, au contraire, l'autre au premier plan. Hein. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors cette parabole du bon samaritain que vous avez sous les yeux, on va la lire ensemble du reste, hein, c'est la parabole de la miséricorde de Dieu. Saint Luc, c'est l'évangile qui parle spécialement de la miséricorde et de la prière. Alors je lis ce texte, hein, vous l'avez sous les yeux, ça vous permet de regarder avec plus d'attention. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va. » Et toi aussi, fais de même. Alors, la question de ce parabole, dans cette parabole, hein, c'est la question du prochain. Et il y a un peu un double sens du prochain. Il y a celui dont je m'approche et il y a celui qui s'approche de moi. Et souvent, nous voyons surtout le premier aspect, celui dont je m'approche. Mais il y a aussi celui qui s'approche de moi, c'est-à-dire celui que je rencontre dans mon existence habituelle, en marchant dans la rue, en croisant des personnes dans ma vie. Alors, la question est posée par le docteur de la loi, il a envie d'en savoir plus sur l'amour que Jésus vient d'affirmer, que lui vient de dire, et il dit au fond la question « Qui est mon prochain ?» Évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait un discours entre deux rabbins qui vont longuement expliquer comment on peut comprendre le prochain comme celui qui est plus proche, comme celui qui est plus lointain, comme celui que j'aime, celui que je n'aime pas. Mais ce qui est toujours extraordinaire chez Jésus, c'est qu'il ne fait pas des discours, hein, il raconte des histoires. Et une parabole, c'est toujours un événement, c'est une histoire qui est un événement parce qu'elle entre dans ma vie. Vous voyez, je ne peux pas écouter cette histoire de la parabole du bon samaritain sans entrer dans cette histoire. Quelle est mon attention aux autres? Quel est mon égoïsme? Quelle est ma générosité? Quelle est ma compassion? Alors, Jésus choisit une histoire spécialement difficile pour le docteur de la loi. D'abord, il choisit les prêtres et les lévites. Ce sont des hommes très particuliers qui sont qui travaillent dans le temple, qui sont donc vraiment très vénérés comme des droits, des hommes pleins respectueux, pleinement respectueux de la vie et des exigences de la Torah. Voilà. Alors, il y a aussi, le Samaritain, voilà, l'exclu. Jésus choisit donc tous les extrêmes dans cette histoire du bon Samaritain. Alors, la route se déroule de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est 800 mètres d'altitude et Jéricho, c'est moins 400 mètres. Vous savez, c'est le bas le plus bas de l'histoire de la Terre. Et il marche sur cette route solitaire. Cette route, aujourd'hui, elle est remplie de cycles qui vont très vite, de routes très rapides. Et moi, je l'ai traversée à l'époque où il y avait très peu de voitures. Et je peux vous dire que c'était vraiment une vie solitaire et une vie déserte. Et c'était très étonnant de marcher sur cette route de Jérusalem à Jéricho. Alors d'abord, il y a un homme, anthropos en grec. Voilà, c'est toute l'humanité qui est sur ce chemin et qui a été blessée. C'est et ce sont aussi tous les privilégiés que Jésus aime particulièrement, c'est-à-dire les pauvres, les malheureux, tous ceux qui souffrent. Alors ensuite, il y a les brigands. Ils représentent tous ceux qui attaquent les faibles. Il y en a toujours des gens qui attaquent les faibles. Prenons un exemple qui est très courant actuellement, c'est sur Internet tous ces gens qui trompent les autres pour essayer de leur extorquer leur argent. Voilà. Ça, ce sont les brigands, ce sont les voraces, ceux qui veulent prendre les autres en défaut. Alors, il y a aussi le prêtre et le lévite. Alors, je les ai décrits un peu tout à l'heure, hein, ils sont parfaitement respectueux de la Torah. Leur problème, c'est que finalement, la Torah, la loi, va les découvrir, va les détourner de l'amour, vous voyez. Eux qui veulent être parfaitement respectueux de la loi, eh bien, finalement, ils vont se montrer inattentifs à cause de la pureté rituelle qui est la leur. Ils vont se rendre inattentifs à ceux qui sont dans le malheur et ils vont même se détourner. On peut dire franchement que la Torah va les détourner de l'amour. Enfin, le dernier, c'est le Samaritain. Alors, c'est quelqu'un qui s'arrête. Il ne fait pas passer seulement. L'homme blessé est vraiment le prochain. Et il lui fait le don de la proximité. Ça, c'est quelque chose que nous devrions faire souvent dans le courant. Faire le don de la proximité aux autres. Alors que souvent, nous les éloignons, au contraire, les autres.
Oui, d'ailleurs, on voit bien que le texte nous dit, hein, on parlait du regard tout à l'heure, il le vit. Et fut saisi de compassion.
C'est ça.
Il le vit.
Donc il y a se rendre proche de l'autre. Hein. Voilà. Parce qu'au fond, celui que je rencontre, c'est quelqu'un qui est un étranger. Si je rencontre quelqu'un dans la rue, c'est quelqu'un qui est un étranger. Eh bien, si je vais entrer dans son amitié, dans son amour, eh bien quelque chose va changer entre nous. C'est très extraordinaire l'expérience que nous pouvons faire de quelquefois rencontrer quelqu'un que nous ne connaissions absolument pas et dont cette personne va devenir vraiment proche de nous. Alors, dans cette parabole, je peux penser aussi au moment... Il y a un aspect positif dans cette parabole, c'est penser au moment où j'ai été heureux d'aider les autres. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que le malheur, il y a aussi dans cette parabole cette idée qu'il y a un bonheur à aider les autres. Alors le Samaritain, il soigne les autres. Il en fait plus qu'il aurait pu lui donner quelques soins et puis ensuite partir. Il l'emmène sur sa monture. Et en plus, quand il arrive à l'auberge, il va lui laisser de l'argent pour que les soins puissent se prolonger et ne pas être simplement l'action d'un instant. Voilà. Et puis, ce Samaritain aussi, il est vraiment, il est rempli d'amour, il est touché de compassion. Hein. Le verbe en grec, ça veut dire il est pris dans ses entrailles, comme une mère qui aime ses enfants. Alors, voilà, on peut se demander, donc on a vu cette attitude du Samaritain comme une vue personnelle. Mais il y a aussi une dimension plus large à prendre, et c'est le pape qui l'a en particulier développé dans Fratelli Tutti. Alors j'ai mis le texte, je vais le lire, parce qu'il est magnifique ce texte du pape, j'aurais pu faire le résumé lui-même, mais j'ai préféré lire la parole du pape. Hein. Donc vous l'avez au dos de la parabole. « À qui t'identifies-tu ? » Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces personnes, à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la tentation qui nous guette de nous désintéresser des autres. Cet égoïsme si naturel, si profond dans l'homme, surtout les plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui nous concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Parce que le pape a voulu développer l'aspect communautaire et pas simplement l'aspect individuel dans son texte. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. C'est vrai que quand les situations nous touchent directement, quand elles nous concernent, alors elles nous touchent toujours directement. Mais les questions des autres... Une personne est agressée, alors quelques exemples que donne le pape, hein, qui est toujours très concret. Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s'enfuient comme s'ils n'avaient rien vu. Souvent, les gens au volant d'une voiture percutent quelqu'un et s'enfuient. L'unique chose qui leur importe, c'est d'éviter les problèmes. Ils se soucient peu de ce qu'un être humain meurt par leur faute. Mais ce sont des signes d'un monde de vie répandue qui se manifeste de diverses manières, peut-être plus subtiles. De plus, comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler des problèmes d'autrui. C'est vrai que quand on voit dans la rue, dans la vie publique, hein, une personne très souffrante, ça nous touche, hein, mais est-ce que nous faisons le geste de les aider ? Ce sont les symptômes d'une société qui est malade parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. Regardons le modèle du bon Samaritain. C'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien social. Et je saute au paragraphe 67. Cette parabole est une icône éclairante capable de mettre en évidence l'option de base que nous devons faire pour construire ce monde qui nous fait mal. Face à tant de douleurs, face à tant de blessures, la seule issue, c'est d'être comme le bon Samaritain. Toute autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre sans compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le chemin. La parabole nous montre quelle initiative une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre pour que le bien soit commun. En même temps, la parabole nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. Le récit, disons-le clairement, n'offre pas un enseignement sur des idéaux abstraits, ceux probablement dont le maître de la loi aurait aimé discuter avec Jésus, ni peut-être d'être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous invite, il nous révèle une caractéristique essentielle de l'être humain, si souvent oubliée. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela, la dignité. Voilà donc ce très beau texte du pape que je vous invite à relire, hein, qui élargit la question du Samaritain à un individu, mais qui s'élargit aux questions des sociétés qui, les unes prenant les autres et les autres étant souvent victimes de ces sociétés plus élaborées. Alors, cet exemple, du reste, c'est bien l'exemple du pape François lui-même. Il a été extrêmement généreux, il a voulu rejoindre les plus pauvres, les plus lointains. C'était vraiment tout le centre de son enseignement. Et puis, évidemment, cette parabole, on peut dire qu'à la fois, on y voit Jésus comme celui qui est le pauvre, qui est attaqué par les autres, et nous le voyons aussi comme celui qui est rempli d'amour et de sollicitude pour tous ceux qui nous entourent.
Alors, comment la tradition des pères de l'Église, des saints et des papes, nous enseigne sur l'aumône ? Alors, les pères de l'Église, par leurs écrits appelés la littérature et patristique, leur acte et l'exemple de leur vie ont établi et défendu de multiples aspects de la théologie chrétienne et ont édifié les premières structures stables de l'Église. Ces pères des 4e et 5e siècles parlent de l'aumône et du partage avec force. Les biens de la terre sont destinés à être partagés. Nous en sommes gérants, mais ils ne nous appartiennent pas. C'est ce que la doctrine sociale de l'Église appelle aujourd'hui la destination universelle des biens. Alors, citons par exemple Grégoire de Nazianze, le maître de toutes choses veut la miséricorde et non le sacrifice, et nous la lui donnons à travers les pauvres. Saint Augustin nous enseigne dans son commentaire du psaume 52 avec quelle célérité sont accueillies les prières de celui qui fait le bien. Telle est la justice de l'homme dans la vie présente, le jeûne, l'aumône et la prière. La prière en tant qu'ouverture à Dieu, le jeûne en tant qu'expression de notre liberté par rapport à nos envies, et enfin l'aumône en tant qu'ouverture aux autres. Et Saint Augustin affirme que l'aumône est un remède spirituel contre l'égoïsme. Quant à l'exemple des saints, ils ont tous vécu de façon héroïque la prière, le jeûne et le partage. Nous connaissons tous l'histoire de Saint Martin de Tours, hein, qui, alors qu'il était encore soldat romain et dans l'état de catéchumène, a partagé son manteau. Et la nuit suivante, il fait un rêve. Il voit Jésus portant le manteau. Cet épisode rappelle la parole de l'Évangile, dans Matthieu 25, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, plus récemment, là, au 19e, Frédéric Ozanam, fondateur avec Rosalie Rendu des conférences de la charité, qui deviendront les conférences Saint-Vincent de Paul, « L'aumône seule, l'aumône sans parole et sans amour, est une humiliation pour celui qui la reçoit. Faut-il donc rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, que le Sauveur lui-même ne demande pas seulement à être vêtu et nourri en la personne des pauvres, mais visité et consolé. Plus près de nous pourrions citer Mère Teresa, Sœur Emmanuel, ou encore Giorgio Frassati, hein, qui a été canonisé avec Carlo Acutis en septembre dernier. Mais nous pourrions citer peut-être un peu plus longuement la vénérable Madeleine Delbrel, assistante sociale à Ivry, sur Seine, et voilà ce qu'elle écrit sur avoir un cœur bon. D'ailleurs, c'est repris ici dans en bas de la parabole du bon samaritain. Il n'y a pas de charité fraternelle sans bonté. Le cœur des hommes de notre temps s'asphyxie lentement, sournoisement, d'une absence universelle, celle de la bonté. Aussi, la rencontre d'un homme réellement bon, d'une femme réellement bonne, produit-elle sur d'autres hommes, sur d'autres femmes, quelque chose qui ne relève pas du domaine de la pensée? C'est un véritable phénomène d'oxygénation du cœur. L'enseignement des papes, tous nos papes ont insisté sur l'amour et le partage. Et a commencé déjà par Saint Jean-Paul II en 79 dans ses enseignements du mercredi. Il est très facile d'avoir une idée fausse du partage. Jésus a mis en garde contre l'attitude superficielle extérieure de l'aumône. Et il est très important de cultiver la sensibilité intérieure aux besoins réels de notre prochain pour que ce que nous apportons à sa vie soit un don authentique. Alors, je ne reviens pas sur le pape François dont le père Jean-Louis nous a commenté, nous a indiqué les très beaux commentaires de cette parabole dans Fratelli Tutti. Et on peut citer aussi notre pape actuel, qui dans son exhortation apostolique « Dilexite, je t'ai choisi », rappelle que Dieu aime l'humanité avant toute action humaine. Le chrétien donne parce qu'il se sait aimé de Dieu. L'amour de Dieu est la source de toute charité. L'amour est une expression, enfin, l'aumône est une expression concrète de cet amour. Elle transforme le cœur du chrétien et le visage du monde. Et ce passage de cette dilexité qui a été repris par un des conférenciers des sermons et de carême de cette année à Notre-Dame, le paragraphe 76. La sainteté chrétienne fleurit souvent dans les lieux les plus oubliés et les plus blessés de l'humanité. Les plus pauvres parmi les pauvres, ceux qui manquent non seulement de biens, mais aussi de voix et de reconnaissance de leur dignité, occupent une place spéciale dans le cœur de Dieu. Ils sont les préférés de l'Évangile, les héritiers du royaume. C'est en eux que le Christ continue de souffrir et de ressusciter. C'est en eux que l'Église retrouve sa vocation à montrer sa réalité la plus authentique. Bien entendu, le catéchisme de l'Église catholique parle de l'aumône à propos des œuvres de miséricorde en disant que ce sont celles par lesquelles nous venons en aide à notre prochain, à la fois dans ses nécessités corporelles, mais également ses nécessités spirituelles. Peut-être que tu veux dire un mot de Matthieu 25.
Alors, moi, je vous propose de relire le texte qu'on appelle parfois le jugement dernier, mais je pense que ce titre n'est pas bon. Voilà. Alors, on va le lire, on va le relire ensemble, enfin, au moins le début. Hein. Mais je vous expliquerai pourquoi je le regarde autrement. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, depuis la fondation du monde. » Alors, il faut écouter chacun de ces mots. Hein. « Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, tu étais nu, nous t'avons habillé, tu étais en prison. Et le roi leur répondra, amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ce texte, on l'appelle en général le texte du jugement dernier. Mais en réalité, ce n'est pas tellement la question du jugement qui est en cause. C'est la réalité, une invitation à vivre aujourd'hui dans l'amour et la volonté de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas d'abord une description de ce qui va se passer à la fin des temps. C'est d'abord, comme toute parabole, une invitation qui nous est faite pour aujourd'hui. Nous ne sommes pas invités à penser d'abord au monde qui vient. De toute façon, nous n'en savons pas grand-chose. Nous sommes invités à réfléchir sur l'intelligence de la loi de Dieu, la loi de l'amour, celle de la charité, sur laquelle nous serons admis à la vie éternelle avec le Sauveur. Nous serons jugés sur notre façon de vivre avec nos frères, sur ceux qui ont besoin de se sentir aimés, compris, soutenus, respectés. C'est ça le partage, hein. C'est entrer dans cette relation personnelle avec les autres, dans la générosité, dans l'amour, dans la compréhension de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Alors, plutôt que de regarder sur ce que nous aurons, le jugement dont nous aurons à paraître devant Dieu, c'est plutôt « Seigneur, accorde-moi la grâce de reconnaître aujourd'hui sur quoi se construit la vie éternelle. » Et alors voilà une des réflexions que donne le pape François donc dans une intervention en 2013. Ce qui nous est demandé, c'est de nous confier en lui, de correspondre au don de son amour par une vie bonne, faite d'actions animées par la foi et par l'amour. Cela doit nous pousser à mieux vivre le présent. Vous voyez, mieux vivre le présent. C'est le présent qui est le plus important. Dans sa miséricorde et sa patience, Dieu nous offre ce temps afin que nous apprenions chaque jour à le reconnaître dans les pauvres et dans les petits, que nous nous attachions à faire le bien et que nous soyons vigilants dans la prière et dans l'amour. Oui, la relation avec Dieu, ça n'est jamais demain, c'est toujours aujourd'hui. Alors, est-ce que nous savons marcher normalement, paisiblement, regarder les gens en souriant dans la rue? Est-ce que nous savons dépasser la contrariété, la mauvaise humeur fréquente dans la vie de tous les jours? Sait-on rester auprès de celui qui est fatigué, dépressif, l'écouter pour l'apaiser, si possible, et si possible, si nécessaire, rejoindre sa colère et sa haine? Est-ce que je sais rester calme quand mes projets personnels disparaissent sous un épais brouillard? Au cours des moments difficiles, est-ce que je sais me réfugier dans la consolation de Saint Jacques qui disait « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. » Voilà, en bref, est-ce que je sais reconnaître dans mon quotidien tel qu'il se présente un don de Dieu pour moi et en faire profiter ceux qui m'entourent? Alors il dira à sa gauche, déjà depuis longtemps on parle de notre société moderne comme une société qui se construit sans espérance et sans amour. Moi je suis toujours étonné de voir dans les relations quotidiennes les uns avec les autres, de la violence, du manque d'attention. même s'il y a aussi quelque chose qui me frappe, puisque je suis devenu un peu aux cheveux blancs depuis assez longtemps, de voir que dans le métro, les gens très souvent m'accueillent leur place. Et la sensibilité vient aussi bien des personnes les plus distinguées que des personnes les plus simples. Mais cette attention aux autres. Mais le monde ne veut plus se servir que de la technique sans respecter le désir de Dieu qui nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Voilà. Alors nous sommes vraiment invités à vivre cette exigence que Jésus nous donne dans ce chapitre de Matthieu 25 par l'attention de ceux qui nous entourent. Alors on peut reprendre ces mots du pape François. Ce qui nous est demandé, c'est de nous confier en lui, de correspondre au don de son amour par une vie bonne faite envers les autres. Eh bien, au cours de nos activités quotidiennes, nous sommes invités à prendre au sérieux le Notre Père, que ta volonté soit faite. Et c'est très beau aussi de dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez, vivre de pain de l'amour, vivre du pain du partage, c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours là où Dieu se trouve, c'est toujours là où je rencontre mon frère.
Alors Jean-Louis nous a donné déjà tout un certain nombre de propositions et d'actions concrètes que nous pouvons avoir dans notre vie de tous les jours. Alors moi je voudrais aller peut-être un petit peu plus loin sur des repères concrets pour le partage des biens aujourd'hui. Ces repères peuvent être résumés en quatre actions. Il faut décider au risque de s'appauvrir, discerner notre attachement à la richesse, et enfin faire confiance à Dieu. Rejoins, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On n'a pas besoin d'accumuler du pain pour 3 semaines, puisque il nous donne aujourd'hui. Quand nous disons cette phrase, il faut bien sentir ce que nous disons et ce qu'elle veut dire. Alors, il nous faut décider. La doctrine sociale de l'Église dont j'ai parlé tout à l'heure, dont l'origine remonte à l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, s'appuie sur six principes, la dignité de la personne humaine, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité et la solidarité. En ce qui concerne la destination universelle des biens, ce qui rejoint notre sujet de ce soir, Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. Notons bien que les biens comprennent aussi bien nos revenus que le patrimoine que nous pouvons posséder. En conséquence, nous sommes invités à décider en notre âme et conscience de ce que nous pouvons faire de nos biens et périodiquement de revoir nos choix. Il nous faut décider aussi au risque de nous appauvrir. Dans sa lettre, Saint Jacques nous enseigne que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. Saint Jacques 1, 9. Pour Saint Jacques, l'humilité ne va pas sans renoncement matériel, ce qui est évidemment difficile dans notre société où les biens sont un marqueur social important. Et pourtant, ceci est conforme à l'éclairage habituel de la théologie chrétienne sur l'imitation de Jésus-Christ. Notre chemin à la suite de Jésus-Christ comporte l'abaissement si bien décrit par Saint Paul dans ses lettres. Ainsi, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riche de sa pauvreté. Et dans son hymne aux Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Ils sont à rapprocher du propre témoignage de Paul dans cette même lettre aux Philippiens. Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Et c'est sans doute ce que le pape François a traduit en nous invitant à la sobriété. Jésus nous éclaire sur notre avidité. « Dis à mon frère de partager avec moi l'héritage », nous dit saint Luc dans le chapitre 12. Et Jésus de lui répondre « qu'il n'est pas établi pour être juge ou arbitre des partages ». Et il poursuit « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Luc 12, 15. Jésus nous invite à la confiance. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans Matthieu, et toujours dans Matthieu, hein, dans le Notre Père que nous venons de citer à l'instant, donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors cette confiance n'exclut pas la prudence. C'est pourquoi il faut discerner librement en notre âme et conscience, j'y reviens, ce que nous voulons partager. En résumé, on pourrait conclure notre intervention comme ceci. L'aumône libère celui qui donne et produit la joie. Elle combat l'égoïsme, l'attachement excessif au bien, l'individualisme et l'indifférence. L'aumône restaure la dignité de celui qui reçoit. Pour cela, elle requiert l'humilité de celui qui donne. Elle consiste à se faire proche. Le pauvre est un frère. L'aumône construit la communion. Elle suppose de voir les attentes et les besoins des autres. Elle crée une fraternité, une justice plus humaine, une société plus évangélique. L'aumône et le partage nous unissent au Seigneur Jésus. Le Seigneur nous invite à donner à notre âme et conscience avec la prudence au regard de nos devoirs, mais en tout état de cause à donner généreusement. L'aumône est une grâce de Dieu qu'il faut lui demander. L'aumône et le partage sont des actes de foi, d'amour, et qui ravivent l'espérance. Oui, tu peux peut-être, tu voulais dire un petit mot sur les différentes formes, peut-être plus immédiates.
Dire un petit mot sur les différentes formes de l'aumône, parce que quand on parle de l'aumône, on pense souvent au partage maternel, hein, donner ses biens à ceux qui sont dans le besoin et seulement à l'argent. Mais l'aumône prend plusieurs formes. Alors, regardez, c'est le don du temps, le don de l'attention et le don de la compassion. Alors d'abord, le don du temps. Mais il faut prendre du temps. Hier, j'ai été voir une personne âgée, très, très malade. Ben voilà, j'ai pris le temps d'aller la voir et visiter les malades, accompagner les personnes âgées. Mais le temps, à mon avis, est beaucoup plus large. Je vais prendre un exemple concret. Dans une conversation, très souvent, nous ne prenons pas le temps d'écouter celui qui est en train de parler. Il a quelque chose à nous communiquer. Il a une certaine vérité, une certaine beauté qu'il a en lui. Mais nous interrompons rapidement par d'autres questions. Notre capacité à vraiment prendre du temps pour cette personne. Et il faut aussi prendre du temps L'aumône, il faut la faire aussi avec soi-même. Il faut prendre du temps pour soi. Spécialement quand on grandit un peu en âge, on se dit que c'est important d'avoir du temps pour penser aussi à moi-même, penser, et cela ne peut se faire qu'avec le temps. Et puis bien sûr, le temps donné aux autres. Très souvent, les autres ont besoin de notre temps, mais nous ne sommes pas prêts à le leur donner. Alors le don de l'attention, très souvent nous passons à côté des autres sans faire attention à ce qu'ils vivent. On peut même être dans une communauté chrétienne et même une communauté de prêtres et puis ne pas être suffisamment attentif à ce que vit telle ou telle personne. Voilà, rejoindre la personne dans son état. Les moments où nous allons bien, les moments où nous souffrons, les moments où nous sommes dans la joie, les moments où nous avons des vérités que nous avons envie à partager avec d'autres, les moments où nous avons envie d'être écoutés, au contraire. Voilà, le don de l'attention, ça me paraît très central. Et puis le don de la compassion, hein. On a dit dans la parabole du bon samaritain que voilà, il fut touché à l'extrême, il fut touché dans toute sa sensibilité, pris dans la racine de lui-même, en train de souffrir en face de cet homme qui était au bord de la route. Et bien nous aussi, nous avons essayé à rejoindre les autres dans ce qu'ils souffrent. Nous savons bien que nous-mêmes, quand nous souffrons, nous sommes toujours très heureux que les autres comprennent notre souffrance, qu'ils la rejoignent, qu'ils la soutiennent, qu'ils l'encouragent. Eh bien, il nous faut avoir ce don de compassion, cette générosité du cœur qui rejoint l'autre dans ce qu'il est, en particulier dans sa souffrance. Vous voyez, l'aumône, ce n'est pas que de l'argent, c'est beaucoup de cœur surtout. C'est probablement même ce qui est le plus important dans l'aumône. L'aumône du cœur, l'aumône de celui qui est sensible à la souffrance de l'autre, l'autre qui est celui de capable de rejoindre l'autre dans ce qu'il est en train de vivre, l'autre pour lequel je suis capable de donner mon temps et mon énergie.
On a peut-être quelques minutes pour répondre à des questions, et puis on terminera par une prière et puis une bénédiction.
Quand je donne une pièce dans la rue, dans 95 ou 99% des cas, la personne est pleine de joie et me remercie. Mais dans quelques pourcents des cas, la personne me demande une deuxième pièce ou un billet ou un repas. Alors, je suis amené à refuser, et donc je me demande si je ne manque pas d'amour, ou bien si je devrais aller jusqu'à l'infini.
Alors, je crois que non seulement on peut ajouter de l'argent, mais on peut ajouter une parole, et que cette parole est souvent même peut-être plus importante ou aussi importante que l'argent que l'on donne. Alors, j'ai envie de vous raconter une histoire qui se passe devant l'église et que je trouve assez drôle. Il y a, comme vous remarquez, il y avait avant Thierry qui était toujours en train de quêter. Maintenant, il est à Vieux-Breteuil, et donc il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Et alors, il a une pratique assez particulière, c'est que de temps en temps, il me fait signe quand je passe, Et puis il ouvre sa poche, il sort toutes les pièces de monnaie qu'il a. Il choisit en général les plus petites du reste et il me les donne probablement pour que j'aille moi-même les mettre dans le tronc de l'église. Tout ça, c'est curieux, cette personne qui elle-même voilà, reçoit l'argent et qui la donne au prêtre, elle la donne au curé, il me le donne à moi aussi. Voilà, j'avoue que ça m'a fait beaucoup sourire, cette histoire.
Oui, moi j'ai une histoire à rapporter qui n'est pas très drôle et qui m'amène à penser qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que les pauvres ne sont pas toujours des gentils garçons. Il m'est arrivé, comme un monsieur qui a parlé avant moi, de donner dans la rue, notamment dans le métro. Dans les années 80, j'ai donné, à l'époque, j'ai donné 10 francs à un gars qui faisait l'aumône. Et il ne m'a pas remercié. Il m'a dit, tu dois avoir plus, tu vas me donner plus. Et je lui ai dit, non, je suis désolé, j'ai vraiment... Et c'était vrai, ou à peu près vrai, que je n'avais pas plus. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. Et il a commencé à vouloir me foutre son poing dans la figure. Alors, bon, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Je connaissais quand même des trucs. Je m'en suis sorti... en frappant le premier.
À vrai dire, la question, c'est toujours mon action et non pas celle de l'autre. C'est toujours moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il est bien que je fasse pour avoir cet esprit de partage. Et bien sûr, il y a aussi les réactions des autres. Si on me tape dessus, c'est pas très agréable. Bien. Ben, si vous auriez d'autres, oui.
Je leur dis d'ailleurs, allez à l'église.
Moi, ce qui m'a frappé dans votre histoire, Père Jean-Louis, c'est que finalement, vous donnez régulièrement l'occasion à cet homme qui est à la porte de l'église de recevoir de sa part. Ouais. C'est une chose qui n'a pas été évoquée ce soir. Accepter de recevoir de l'autre, c'est quelquefois un grand cadeau. Ouais. Et si par hasard, on invite d'ailleurs la personne, la remercier d'avoir pu passer un peu de temps avec elle, pourquoi pas.
Ouais. De toute façon, je suis très heureux quand il me... Et je ne garde pas l'argent pour moi, hein. je vais le mettre immédiatement dans le tronc de l'église.
Mais les gens effectivement qui font des maraudes, et il y en a effectivement le font dans le cadre du sourire de Saint-François-Xavier, ils nous disent dans leur témoignage que c'est plus le fait d'engager la conversation avec ces personnes qui sont seules et qui est assez riche, si vous voulez, aussi bien pour celles qui reçoivent, qui parlent, que celles qui échangent avec. Et c'est un élément ça important. Il ne s'agit pas simplement de voir, de donner, il s'agit aussi d'échanger. Quelquefois, il y a un bel échange qui peut naître. Voilà, Sophie.
Merci. Moi, je voulais dire qu'on parle beaucoup des gens dans la rue. Bien sûr, il y a les gens dans la rue, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont... plus ou moins proches de soi et qui ont besoin d'écoute. Et c'est assez facile, hein. On les regarde, on leur pose une question et souvent ils embrayent pendant longtemps parce qu'ils sont seuls et qu'ils ont besoin de parler. Et ce ne sont pas forcément des gens dans la rue, mais donc il faut regarder aussi à côté, me semble-t-il.
Et c'est un peu ce que j'ai dit, le partage, qui est l'aumône qui donne du temps, qui donne de la compassion, qui donne... Voilà, qui donne de l'attention aux autres. C'est ça le partage, finalement. C'est de prendre l'autre pour ce qu'il est et l'aimer. Et quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de partager ce que lui peut me partager, ce que lui peut me partager. Voilà, le partage, ça va extrêmement loin. Et évidemment, le partage par excellence, c'est celui qui a été celui de Jésus. Il a voulu partager, il était Dieu, et il a voulu partager la vie des hommes. Extraordinaire, quand même. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est vraiment cet amour de Dieu qui va jusqu'à devenir lui-même Dieu. Il l'a dit, il est Dieu depuis éternité, il n'est pas Dieu uniquement au jour où il descend sur cette terre, mais ce jour-là, il prend racine dans l'humanité, il devient l'un des nôtres. Ça, c'est peut-être le plus beau, la plus belle forme de partage. Mais aussi, bien sûr, celle de l'amour de Jésus qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est ce qu'on va célébrer pendant le temps de la Semaine Sainte dans quelques jours. Oui. Bon.
Merci.
Accepte une dernière question.
Merci beaucoup pour l'évocation du don du temps. C'est pas le plus facile de s'arrêter et de consacrer un peu de son agenda, surtout vers des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Et merci de l'avoir évoqué, en tout cas. C'est pas différent de donner l'argent, mais c'est aussi précieux pour les personnes. Merci.
François, on prend beaucoup de temps à écouter les autres et à parler avec eux.
Après cette rencontre, ce que je me dis, c'est que le point de conversion, c'est de savoir est-ce que nous sommes avares.
Oui.
La conversion, c'est par rapport à l'avarice.
Oui.
Parce que c'est ça qui nous rend tristes, qui nous empêche de donner avec joie, et de donner de façon, en sachant que c'est de la justice.
Oui.
J'ai pu écouter, peut-être vous aussi, sur Cathéo, vous savez, dans la foi prise au mot, en ce moment, on peut lire, on peut écouter, il y a une foi prise au mot sur l'avarice et sur les autres péchés capitaux, c'est pas grave, mais qui rejoint un peu quelque chose de plus universel et qui était assez animé, mais qui concerne aussi le bien commun et la façon de voter, etc.
Mais du reste, les biens que nous avons ne nous appartiennent pas. Nous sommes seulement les porteurs. L'argent en particulier, moi j'ai pensé à ça, l'argent il n'est pas... J'en ai besoin un peu, heureusement je suis bien content d'en avoir un petit peu, mais cet argent il n'est pas d'abord à moi. Il m'est confié pour que j'en fasse un juste usage. Et ça va loin, cette exigence-là. Savoir que ce que nous avons, nous sommes vraiment non seulement invités à le partager, mais que c'est même une nécessité divine de ne pas garder les choses pour nous, mais de les partager avec d'autres.
Saint Augustin a une... Sur le partage, par exemple, des biens, et sur la question qui se pose pour beaucoup d'entre nous, sur ce que nous transmettons à nos enfants. Il cite l'exemple d'une personne qui a 3 enfants. Et il se trouve qu'il en paiera. Et il dit, mais est-ce qu'il faut partager les biens entre les deux, entre deux, alors qu'ils auraient pu être partagés en 3? Est-ce que celui qui est au ciel, il ne mérite pas aussi sa part? Il dit aussi, il prend l'exemple, un autre exemple, en disant, ben voilà, vous avez 5 enfants, il pourrait y en avoir un 6e. Voilà, qu'est-ce que vous faites de cette 6e part?
Il faut laisser peut-être ceux qui veulent, ceux qui ont besoin de rentrer chez eux, et puis
voilà.
Et on peut continuer à parler si vous voulez.
Mais on va se lever pour terminer par, oui, par une prière. Et on pourrait prendre en ce jour de l'Annonciation, on pourrait prendre la prière de Jésus, et de Marie courant vers sa cousine Élisabeth, et donc prendre le Magnificat qui contient, cette prière contient à la fois les trois façons de vivre notre carême, par la prière, le jeûne et l'aumône. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Que le Seigneur,
pour les siècles des siècles,
amen. Que le Seigneur élargisse votre cœur dans une grande générosité et un bel esprit de partage, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Amen.
Bonne soirée à tous.